Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour à tous et bienvenue au Diplonaute podcast où on parle d'enjeux internationaux et sociaux. Cette semaine, on va parler de l'aide internationale féministe canadienne au Mali. Plus particulièrement, on va s'intéresser à ses impacts normatifs et qu'est-ce qui se passe présentement dans le pays. Puis on va aborder les enjeux de la coopération internationale. Allô les filles, ça va bien? Donc, salut Gabrielle, salut Simone.
Allô Natacha.
Je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on puisse parler un peu du Mali, puis plus précisément de ton sujet de recherche, Gabrielle, qui concerne l'aide internationale canadienne féministe au Mali. Mm-hmm. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste ta question de recherche? C'est quoi ton sujet exactement?
Oui, peut-être pour mettre en contexte, moi je suis étudiante à la maîtrise en études appliquées, en études politiques appliquées à Sherbrooke, au cheminement recherche. Donc, comment que ça fonctionne, c'est que j'ai vraiment un mémoire à faire. J'avais carte blanche sur mon sujet, puis j'ai décidé d'y aller avec quelque chose qui m'intéressait, c'est-à-dire le féminisme en politique. Puis je suis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup aux relations internationales depuis le début de ma scolarité à l'université. Donc j'ai regardé un peu qu'est-ce qui m'entourait, les travaux de session qui m'ont plus emballée dans le fond pendant que j'étais au bac. J'ai eu un cours sur les systèmes politiques africains que j'avais vraiment beaucoup aimé avec le professeur Adib Ben-Shérif. Puis grâce à ce cours-là, j'ai rédigé mon premier article scientifique sur les impacts de l'intervention militaire française au Mali. Fait que j'ai comme découvert un intérêt pour vraiment le cas malien qui est très particulier. Puis à partir de ça, dans le fond, justement, j'ai inclus tout ce qui était plus perspective féministe, relations internationales, le lien avec le Canada. Puis ça m'a mené à ma question de recherche qui est, depuis sa création en 2017, en quoi la politique d'aide internationale féministe canadienne contribue-t-elle à un changement normatif sur les questions de genre au Mali? Que c'était quand même... ça veut peut-être rien dire pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, mais voilà.
Mais je trouve que c'est vraiment un beau sujet. Quand on m'en a parlé pour la première fois, on faisait du bénévolat pour le collectif à la journée d'accueil, puis je trouvais ça vraiment pertinent, notamment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au Mali. Simone, je t'ai invitée justement parce que toi, tu fais un stage avec le CSI. Ouais. Puis dans ton stage, tu suis tous les jours l'actualité pour le Mali, puis tu connaissais quand même quelques bonnes informations. Le fait que tu étudies en coopération internationale aussi, ça donne un point de vue qui est différent.
Oui, absolument. Moi, je suis rentrée comme stagiaire au Carrefour de solidarité internationale en septembre dernier. Puis il y a plusieurs départements au Carrefour, mais moi, je suis dans le département Outre-mer. Puis plus spécifiquement sur les projets qui se passent au Mali. On touche un peu à Haïti, mais moins. Depuis 2-3 ans, c'était un peu... dans la dernière année, c'était plus compliqué. Enfin, donc oui, j'ai embarqué sur le projet du Mali avec Rosalie et Étienne. Puis c'est un projet qui démarrait, donc on a fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui se passe sur le terrain, puis qu'est-ce qui a déjà été fait avant dans le type de projet que nous on fait, qui est en agroforesterie. Mais il y a aussi un projet qui est en branle en parallèle par rapport à l'entrepreneuriat féminin avec des femmes au Mali, qui est un projet super cool aussi, qui peut peut-être aller un peu en lien avec le sujet à Gab.
C'est cool, on va en parler éventuellement plus tard.
Ouais, exact. Puis on vient juste d'avoir la visite en plus de nos partenaires maliens au Québec, fait qu'on a eu plein de belles rencontres avec eux, des belles discussions avec nos partenaires aussi qui sont au Québec. Fait que c'est ça, c'était une super belle rencontre, on pourra s'en reparler.
Ben, c'est super. j'aimerais ça commencer avec la question qui me brûle les lèvres, c'est pourquoi tu avais choisi le Mali, considérant qu'il y a plusieurs pays francophones en Afrique?
En fait, il y a un lien vraiment direct entre le Mali et le Canada, c'est-à-dire que le Mali, c'est un des 4 pays qui reçoit le plus d'argent en aide internationale au développement de la part du Canada depuis 2017, donc depuis que la politique d'aide internationale féministe a été instaurée. Fait que c'est sûr que financièrement, il y a vraiment comme une grosse cause à effet de est-ce que ça marche ou pas. T'sais, il y a moyen d'aller chercher puis gratter un peu, voir c'est quoi les impacts de tout ça. Puis je dirais aussi le Mali, pourquoi? Je dirais c'est un cas d'étude vraiment particulier parce que la condition des femmes en général, c'est une société qui est, on va le dire, là, très patriarcale. Les statistiques sont assez alarmantes sur le mariage infantile, sur la mutilation génitale, sur le droit d'une femme à décider d'elle-même en général. Je me disais que c'était un terrain où on le verrait quand même assez facilement s'il y avait une amélioration ou pas, parce qu'on partait quand même de très loin comparativement à la condition des femmes au Canada.
OK, donc on verrait une grande amélioration tantôt. Et Simone, tu disais qu'il y avait une statistique dans le document à Yabgo qui t'avait choqué.
Oui.
C'était...
C'est par rapport justement à la... aux mutilations génitales. Ouais. Que
88,6% des femmes subiront des mutilations génitales au cours de leur vie et 55% des femmes seront mariées avant l'âge de 18 ans.
Oui. Ouais.
C'est tellement triste.
Oui.
Mais ça s'explique aussi par plusieurs facteurs. Il faut le dire que, comme je disais, c'est une société qui est vraiment très traditionnelle, très patriarcale, mais il y a aussi la présence d'extrémisme religieux qui est de plus en plus présente au Mali. Fait que le fait de jumeler à ça les deux ensemble, c'est très difficile de faire avancer la cause, justement, de l'autodétermination des femmes face à leur corps. Fait qu'il y a des pratiques comme ça qui perdurent dans le temps, malgré que de plus en plus, il y a de la sensibilisation pour faire comprendre que ça n'a pas d'allure, là.
On en est où au niveau d'égalité des genres, disons? Et quand on partage les tâches ou quand on parle d'emploi?
Je te dirais qu'au Mali, on parle pas d'égalité des genres. Au Mali, on parle de la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Tout est une question de vocabulaire. C'est vraiment important parce que si t'arrives en disant l'égalité des genres, pour eux, il y a comme pas de genre. Tu sais, c'est okay. Les hommes et les femmes. Puis de dire qu'il y a des inégalités, déjà là, c'est difficile. Souvent, ça va être améliorer la condition de vie des femmes. Fait que tout est dans le vocabulaire. C'est une approche qui est vraiment particulière. Puis je pense que Simone va pouvoir nous en parler là, en coopération internationale. Je sais que c'est un enjeu qui est vraiment important.
Oui, absolument. Absolument. Puis tu vois, le projet que nous, on met en branle avec le CSI, c'est d'autonomiser les femmes puis de leur redonner leur pouvoir d'action en termes financiers pour juste un peu les sortir de leur foyer. Mais on le fait aussi au travail. Tu sais, le projet touche tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde est invité à le faire, malgré qu'il vise quand même majoritairement les femmes et les jeunes filles. Sauf qu'il y a encore des hommes qui sont impliqués, puis même au travers de l'organisme. Je pense qu'il y a une vingtaine d'employés, puis il y a seulement une femme qui travaille pour l'organisme avec qui on travaille au Mali. Ouais.
Okay. Ben, puis en soi, je pense que ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, parce que si tu veux changer la mentalité, tu n'as pas le choix de passer par les gens qui ont de l'influence sur la mentalité.
Absolument. Puis c'est des alliés aussi. Ouais. Puis ce n'est pas tous les hommes qui ne peuvent pas devenir exactement des alliés. Fait que... Mais c'est vrai, qu'est-ce que tu dis par rapport à. Tout est une question de terme. Tu vois, au CSI, on a des formations à donner. Puis même avec nos partenaires, puis quand ils sont venus, on a décidé de changer la formation sur les équités de genre pour parler plus de masculinité positive. Parce que justement, on avait affaire à une équipe d'hommes, puis que pour eux, c'est pas quelque chose qu'ils entendent. Je pense que nous, on est très nord-américains, puis en Occident, on entend beaucoup, beaucoup la lutte pour l'équité de genre. Pour eux, c'est moins proche de leurs oreilles. Fait qu'on a, c'est ça, on a un peu renversé le modèle de formation pour pouvoir leur donner de façon sans les brusquer, puis sans non plus sentir qu'eux se sentent visés de quelconque façon. Il faut pas qu'on leur enlève leur image à eux des alliés de la cause.
Mm-hmm. C'est vraiment intéressant. Donc, tu parles de masculinité positive.
Oui, exact. On veut mettre en valeur un peu leur rôle à eux de tendre la main à ces femmes-là, leur donner des outils pour devenir des entrepreneurs qui vont percer puis qui vont pouvoir perdurer dans le temps aussi. Fait que le programme, il est mis en action, mais c'est par des hommes. Puis ces hommes-là, ils sont bien outillés, puis ils sont très... Genre, c'est des très bons vulgarisateurs. Puis aussi, il y a un gros enjeu d'alphabétisation, par exemple, au Mali. Donc, c'est des hommes qui ont eux la chance de s'éduquer puis d'aller quand même pousser leur profil académique à un autre niveau par rapport à la majorité des femmes qui sont là-bas. Fait que c'est ça, il y a comme toute la dynamique de leur tendre la main plutôt que de leur imposer une forme pensée puis de les outiller le mieux qu'ils peuvent, eux, pour les encadrer.
Mais c'est fun de voir s'il y a une ouverture aussi de la part des hommes. Je me demande à quel point ils sont prêts, mais disons plus à quel point ils sont conscients d'intégrer les femmes dans le milieu du travail, dans le milieu de plein de secteurs, ou est-ce que c'est beaucoup des hommes qui sont majoritaires?
En tout cas, Simone pourra peut-être plus aller en profondeur que moi, parce que, tu sais, j'ai jamais fait de terrain au Mali, là. Moi, ce que je sais, c'est des échos par rapport à des gens qui m'ont rapporté des choses, mais les femmes au Mali, c'est une portion majeure du secteur d'activité économique informelle. Puis l'économie informelle au Mali, c'est la plus grosse partie de l'économie en général pour le pays. Fait qu'il y a une valeur ajoutée à inclure ces femmes-là dans vraiment la structure qui est connue, qui est contrôlée, qui est fiable, en fait, là, parce que les jobs informels, c'est les premières à sauter dès qu'il y a de l'instabilité. Puis les femmes, à ce moment-là, il faut quand même qu'elles soient capables de subvenir à leurs besoins, aider leur famille, etc. Fait que vraiment, je pense que ça passe par ça aussi. Parce que si c'est les hommes qui, en ce moment, ont le pouvoir de décider, t'as pas le choix de les sensibiliser pour leur faire comprendre que les femmes ont une valeur puis que ça vaut la peine de les inclure, tu sais. Parce que j'ai l'impression faut c'est plate, là, mais c'est une question quasiment de marketing. Dans le sens, j'ai l'impression qu'il faut que tu parles en coût-bénéfice, en mode c'est rentable d'inclure les femmes. Puis là, ils vont te dire genre, OK.
C'est comme s'ils avaient oublié que la moitié de leur population, c'est des femmes, puis que si elles prennent pas part à l'économie puis au roulement de leur économie, ils perdent de un beaucoup de main-d'œuvre, puis de deux beaucoup de crédibilité aussi sur le plan économique, parce que t'as un besoin de main-d'œuvre, mais t'utilises pas ou tu sais pas comment aller chercher le 50% qui.
C'est des ressources qui sont présentes, dont la main-d'œuvre féminine, mais exactement. Tu peux pas la chercher.
Sinon, des fois, la main-d'œuvre féminine est là, mais il y a des embûches. Par exemple, tu sais, les femmes, c'est la plus grosse partie de la main-d'œuvre dans le milieu agricole, mais ils sont pas capables d'être propriétaires des terres. Exact. Fait qu'ils sont quand même redevables à un homme au bout du compte. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est d'enlever ces embûches-là pour essayer vraiment de les autonomiser et puis les aider dans leur émancipation.
Ouais. Il y a aussi l'enjeu où est-ce que les femmes s'occupent beaucoup plus des enfants, de leur famille. Donc, c'est aussi un emploi qui n'est pas reconnu. Disons, c'est des tâches qui ne sont pas rémunérées, qui ne sont pas reconnues. Comment les hommes voient ça du fait d'enlever des femmes du milieu familial, du foyer, pour les emmener à travailler dans d'autres secteurs?
Je pense qu'il y a ça aussi, toute l'éducation dans la communauté d'hommes, de pas sentir que ça peut devenir une menace éventuelle, parce que on le connaît, le profil d'une femme qui est capable autant d'avoir une carrière que d'avoir une famille, puis de trouver l'équilibre dans tout ça. Puis il y a aussi une redéfinition des rôles parentaux en général, je crois, qui a à être fait. C'est-à-dire que peut-être que souvent, c'est que l'éducation, en tout cas sur le terrain, est faite de manière à redistribuer les tâches plus équitablement pour que la femme puisse libérer son horaire pour justement aller s'instruire, puis trouver des outils, puis pouvoir partir ses projets à elle aussi sur... en parallèle de sa famille, sans nécessairement avoir la charge qui vient avec. Mais ça, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puis c'est des années, mais même pour nous, là, je veux dire, les congés parentaux pour les hommes, même en Amérique du Nord, c'est de plus en plus fréquent, mais c'est moins inné.
Nous aussi, on a encore du progrès à faire.
Oui, absolument.
Si je me dis, si nous, on en a encore à faire, je veux dire, eux, ils parlent encore plus loin, comme tu disais. C'est que c'est une mentalité qui a besoin d'être changée. Comme tu dis, je ne sais pas où est-ce qu'ils se situent dans cette mentalité-là. Peut-être qu'il y a des enjeux qu'ils ne voient pas nécessairement encore parce que c'est juste trop loin pour le percevoir.
Clairement, les priorités ne sont pas les mêmes parce que, tu sais, quand tu as des problèmes d'excision flagrante, bien, clairement, tu vas commencer à adresser ça avant d'adresser l'égalité salariale, mettons, tu sais. Mais il y a quand même plusieurs nuances à amener, je pense, au sens où je pense pas, même les femmes maliennes, je pense pas qu'ils aspirent à un féminisme qui est occidental. Sur place, tu parles à des femmes où, mettons, moi, j'ai fait des entrevues pour mon mémoire avec des femmes maliennes, les termes féministes, genre, c'est comme prohibé de leur vocabulaire, parce que pour eux, le féminisme, ça a une connotation qui est très occidentale, c'est détaché complètement de la réalité. Fait que, tu sais, tu vas pas dans une asso féministe, tu vas dans une association pour les femmes. Fait que c'est vraiment différent, puis je pense que leurs luttes sont différentes, puis ça vient des spécificités régionales puis locales au Mali. Fait que, tu sais, d'arriver là avec un regard qui est super occidental, c'est pas nécessairement la bonne solution à adopter, parce que des fois, tu peux causer plus de problèmes en essayant d'en régler d'autres. Sûrement que vous avez dit, je sais pas si vous avez des projets en santé sexuelle et reproductive, mais tu sais, parler de santé sexuelle dans un pays qui est super traditionnel, c'est comme déjà là, c'est comme ils vont te revirer de bord. Là.
Ouais, ça passe pas bien.
Fait que, non,
c'est vrai. Est-ce que tu as eu à adapter ton langage un peu? Tu dis que tu as des entrevues, c'est en vidéo ou en direct?
Oui, bien, toutes mes entrevues, je les ai faites sur Teams. Fait que c'est en ligne. Il y avait un consentement préalable de toutes les personnes qui ont participé à mes entrevues. C'est anonyme. Fait que les gens, tu sais, je dis rien qui pourrait les identifier, dans le fond. Fait que dans ce temps-là, les gens sont plus ouverts à parler ouvertement. Je te dirais, j'ai pas eu tant besoin d'adapter mon langage. Avec certaines personnes, oui, mais en même temps, tu sais, si c'est des gens maliens qui travaillent souvent de concert avec des organisations canadiennes ou avec le gouvernement canadien, souvent, c'est des gens qui sont habitués d'entendre ces termes-là. C'est pas comme si tu prenais monsieur, madame, tout le monde au Mali qui ont aucun lien, mettons, avec le Canada, tu sais. Fait qu'il y a déjà comme une gradation. Mais ouais, c'est différent. Mais aussi pour En tout cas, je m'excuse, là, il y a trop de choses qui se passent. Parce qu'on parlait tantôt du rôle de la femme au Mali, puis je pense que c'est vraiment important de spécifier que c'est pas toutes les communautés au Mali qui ont la même place pour la femme. Parce que je travaille aussi beaucoup sur les populations Touareg dans le nord du Mali. Puis les Touareg, c'est des sociétés qui sont matrilinéaires. Fait que la place de la femme au sein des communautés Touareg est vraiment différente. On reconnaît l'importance de la femme parce qu'elle qui assure l'éducation, c'est elle qui met au monde la descendance. Fait que d'une communauté à l'autre, le rôle est vraiment différent. Je pense que ça justifie d'avoir une approche qui est vraiment adaptée à chaque type de communauté auprès desquelles tu fais de l'aide au développement.
Est-ce qu'ils sont nomades, les Touareg?
Oui.
OK.
Ouais.
Ça change-tu la dynamique un peu sur le rôle de chacun dans la communauté, le fait qu'ils sont en mouvement quand même souvent? Ou...
Oui, au sens où, tu sais, la femme, elle est souvent vue comme la responsable de comme la tante, mais la tante étant là où les enfants vont être éduqués, c'est comme le lieu de rassemblement. Fait que oui, il y a comme une connotation. Mais, tu sais, en même temps, les peuples Touareg, c'est pas le genre de personne qui va recevoir vraiment d'aide au développement parce qu'ils sont nomades, sont dans des lieux entre les frontières, ils sont situés sur 4 pays différents. C'est des zones de guerre, c'est là où il y a le plus d'extrémisme violent. Fait que c'est pas là où les groupes de coopération internationale vont aller parce que le danger pour le groupe est trop élevé pour les bénéfices potentiels. Fait qu'en tout cas, c'est pour dire qu'au Mali, les réalités sont vraiment multiples. Puis je pense que c'est important de ne pas en parler comme un groupe homogène parce que c'est vraiment hétérogène comme communauté.
Puis dans ton mémoire, est-ce que tu fais les distinctions? T'as-tu un peu de la chance de te parler avec des femmes Touareg ou c'est plus au sud que tu te
Je me dirige plus sur la capitale parce que, honnêtement, tu sais, le Mali a connu un coup d'État en 2020, ce qui est assez récent. Il y a encore beaucoup d'extrémisme au nord, les frontières, c'est un peu le chaos. Comme je te dis, il n'y a pas vraiment d'aide au développement qui se fait dans ce coin-là. Le Canada, en général, n'a pas vraiment d'action dans ce coin-là. Fait que vu que j'essaie de comprendre l'impact du Canada, c'est moins pertinent pour moi d'aller travailler avec les Touareg, mais je travaille sur les Touareg dans le cadre de d'autres travaux.
Ça fait juste moins avec
toi. C'est ça.
Mais on en a parlé un petit peu, justement, de l'approche féministe. Mm-hmm. Ça varie selon les endroits, ça varie selon les peuples. Puis, pourquoi l'aide internationale féministe, tu l'as dit un peu au début, c'est sûr que ça te passionne, mais pourquoi en particulier t'as décidé de te concentrer sur l'aide internationale féministe canadienne?
J'ai commencé à faire la distinction entre le féminisme, qui est l'idéologie, puis le féminisme, qui est la théorie.
J'ai peut-être employé les deux.
En fait, je pense que c'est juste que j'ai pas fait la distinction au début, puis c'est vraiment pertinent parce que je me qualifie de féministe au sens théorique, mais je suis aussi féministe dans la vie de tous les jours, dans le sens que je suis pour l'égalité en général, puis je milite pour l'égalité, là. Mais je suis féministe au sens théorique, dans le sens que ma théorie, ma lunette analytique avec laquelle j'analyse les phénomènes politiques, c'est vraiment le fait d'essayer de considérer toutes les intersectionnalités possibles, de voir qu'est-ce qui influence quoi, puis c'est quoi l'impact d'avoir des femmes, des gens issus de minorités de genre à la table de décision, puis dans l'idéation de solutions pour des problèmes. Fait que ça, c'est comment moi j'approche la situation. Et à partir de là, pourquoi la politique d'aide internationale féministe? Cette politique-là a un peu cette même approche-là, c'est-à-dire que dans le marketing canadien, quand tu lis la politique au long, là, ça dit qu'ils veulent miser sur le développement en gros, c'est pas textuel là, comme citation, mais ça dit en gros qu'ils veulent miser sur le développement qui touche en particulier les femmes et les filles parce que pour mener à un développement durable et la paix à l'échelle mondiale, il faut inclure tout le monde. Fait que c'est un peu ça la prémisse de la politique d'aide internationale féministe canadienne, puis je trouvais que ça collait bien avec mon approche de comment je vois les choses en général, puis ça se rapproche des solutions que moi j'aimerais voir implantées dans le monde, mais là à partir de là c'est de tester est-ce que ça marche vraiment ou c'est juste marketing pour dire hey on est féministe, on est cool genre.
Ok, c'est quoi ta question, c'est à savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose qui change de quoi dans le monde ou c'est juste du branding? Non?
Exactement, parce que tu sais c'est ça mon but, c'est de voir est-ce que ça amène un changement normatif de faire l'aide au développement de cette façon-là, tu sais, de prioriser les femmes, de prioriser les filles, de faire de la sensibilisation sur l'inclusion, sur l'autonomisation de ces groupes. Est-ce que ça amène quelque chose? Est-ce que localement, la composante genre va être plus réfléchie et intégrée en général dans les politiques au Mali, par exemple, par après, quand le Canada va avoir terminé son intervention?
Est-ce que à date, tu le vois qu'il y a une différence entre une aide internationale féministe et une aide de développement normale, disons?
J'ai parlé avec certains intervenants qui étaient là avant le début de cette politique-là, parce qu'elle a commencé à être mise en application en 2017. Puis les gens à qui j'ai parlé qui étaient là avant m'ont dit qu'en gros, ça n'a pas changé grand-chose parce que les femmes et les filles étaient déjà des groupes d'intervention prioritaire pour le Canada, que c'était surtout le labeling qui avait changé, puis que là, mettons, il y avait des cibles précises. Fait que tu ne pouvais pas vraiment contourner le fait de, tandis que peut-être certaines organisations avant contournaient ces restrictions-là. Mais ultimement, j'ai pas le sentiment que ça a changé grand-chose parce que les gros acquis qui ont été faits au Mali pour la condition des femmes, la plupart se sont faits avant 2017. Puis là, depuis 2020, depuis que le coup d'État, ça l'a comme tout rebrassé. Puis là, il y a comme pas vraiment de terreau fertile à faire des nouvelles avancées. Il y a eu la pandémie entre-temps. Fait que ça a brassé beaucoup. Puis j'ai pas l'impression que ça a concordé avec un moment précis où ça s'est amélioré après. Mais là, tu sais, j'ai pas terminé encore mon mémoire, j'ai pas terminé mes entrevues. C'est un sentiment très. C'est une intuition, comme dirait mon directeur de maîtrise. Mais c'est rien qui est coulé dans le béton encore. Là, j'ai pas parlé à tous mes intervenants. Il y a peut-être des gens qui vont me dire complètement le contraire. Je vais faire genre, oh, wow.
Mais j'allais dire, au niveau de l'enveloppe, parce que si tu vas sur le site du gouvernement canadien puis que tu tapes la PEF, que tu appelles ça?
La PAIF.
Ouais. La PAIF, pardon.
Ouais.
Il parle que ce programme-là va consacrer 15% de son aide financière à des programmes qui touchent, dans le fond, l'équité de genre. Puis tu disais tantôt qu'il y a comme quatre pays plus spécifiques qui sont...
En fait, tout ce qui est en aide internationale en ce moment, qui est encadré par Affaires mondiales Canada, ça doit inclure une composante genre. Comment ça fonctionne à l'interne, c'est qu'ils ont plusieurs critères. Tu peux être critère EG, EG qui veut dire égalité des genres, fait que EG0, EG1, EG2 ou EG3.
Il y a des projets qui ont égalité de genre 0.
Ouais.
Ça veut dire qu'ils focusent juste pas là-dessus.
Oui. Mais ceux qui sont EG0, c'est vraiment, vraiment rare. Puis honnêtement, d'habitude, c'est des projets qui sont plus structurants pour essayer d'avoir comme un pied à terre en quelque part, d'avoir des experts terrain, mettons. Ça sera pas vraiment des projets d'aide au développement, mais ça rentre dans l'action bilatérale, fait qu'ils qualifient quand même. Mais ouais, fait que de façon générale, tout est supposé d'inclure le genre de façon transversale en ce moment dans les nouveaux projets qui ont été signés depuis 2017. Le degré est variable. Puis tu sais, des fois, ça peut être quand même far stretch. Là. C'est pas obligé d'être genre les femmes sont les premières bénéficiaires d'un projet. Tu sais, des fois, ça peut être c'est un sous-groupe du projet.
Ouais, ouais.
Fait que c'est assez extensif comme définition.
Fait qu'il y a pas de quota de faut qu'on ait tant de projets qui sont directement liés avec la cause des femmes ou...
Depuis, je pense que c'est en mars dernier, me semble que c'est en mars, il y a le Bureau du vérificateur général du Canada qui a sorti un rapport sur la politique d'aide internationale féministe qui a déclaré que le gouvernement canadien était incapable de mesurer les impacts de sa propre politique. Et depuis ce temps-là, le ministère s'est un petit peu restructuré, c'est-à-dire que là, ils ont imposé des quotas internes, ils ne sont pas publics par contre, mais c'est des échos que j'ai entendus. Aussi que ils voulaient un certain pourcentage, par exemple, en santé sexuelle et reproductive, tandis qu'avant, ça dépendait plus des spécificités régionales. Fait que oui, maintenant, il y a des quotas, ils ne sont pas publics nécessairement, mais ils tiennent à avoir, je ne sais pas combien de pourcents, mettons, qui sont cotés EG3.
Mais justement, ça me fait penser que comment toi, tu mesures l'aspect normatif, l'impact normatif, disons, au Mali, quand même le gouvernement n'a pas de
Je te dirais, tu sais, moi, j'ai choisi comme méthode de collecte de données les entrevues semi-dirigées. Fait que c'est un peu, tu sais, ma méthode de procédé, c'est un peu comme là, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, je m'assois, je pose des questions, j'essaie de comprendre qu'est-ce que les gens ont comme perception de la situation. Fait que c'est quoi leurs opinions? Comment ils perçoivent le monde qui les entoure? Est-ce qu'ils ont l'impression de faire la différence? Fait que c'est très subjectif comme mesure, mais des fois, ça révèle beaucoup de choses. Parce que, tu sais, quand tu travailles et tu as l'impression de travailler dans le vide, red flag, là, tu sais. fait que des fois, d'aller sur le terrain puis de regarder le ressenti, c'est quasiment plus tangible que d'essayer de voir l'impact sur des indicateurs mesurables, parce que les indicateurs mesurables, c'est difficile à isoler l'impact de la politique versus tous les autres programmes qui pourraient toucher potentiellement à ça, puis toutes les autres affaires qui pourraient avoir un impact sur ça. Tu sais, par exemple, je parlais tantôt de la COVID. La COVID a eu des impacts. Il y a plein d'indicateurs qui ont droppé là, quand tu regardes juste les statistiques. Même affaire après le coup d'État en 2020. Il y a plein d'indicateurs qui se sont dégradés. Mais sais, ça veut pas nécessairement dire que la politique d'aide internationale féministe ne servait à rien pendant ce temps-là. Peut-être qu'elle a limité les dommages, tu sais, mais tu le sais pas si tu vas pas creuser plus loin. Fait que c'est comme ça que je mesure, c'est vraiment en allant chercher le ressenti des personnes qui sont impliquées sur le terrain. Puis d'essayer de voir est-ce que pour eux c'est positif, est-ce qu'ils ont l'impression que ça change pas grand-chose, est-ce que c'est un grain de sable dans le désert, tu sais, c'est genre, tu sais, essayer de voir l'ampleur de la situation.
Puis comment tu traces le profil de tes répondants? C'est-tu aléatoire ou t'as quand même...
Non.
C'est le range d'âge ou leur domaine de profession?
Oui, c'est plus par leur expertise puis leur lien directement avec la politique d'aide internationale féministe, au sens où, tu sais, j'ai travaillé pour les entrevues avec des gens qui sont à Affaires mondiales Canada, fait qu'eux qui ont mis sur pied la politique, des chargés de projet, par exemple. Qui sont au Canada ou des organismes qui sont subventionnés par Affaires mondiales Canada pour des projets au Mali. Donc, tu sais, par exemple, le CSI pourra en faire partie parce que, justement, ils ont un projet au Mali. Je ne sais pas s'il est subventionné par AMC. Fait que, tu sais, ça pourrait être un genre d'intervenant pertinent. Ça peut être des organismes terrain. Fait que, tu sais, des organismes du Mali qui sont pairés parce que souvent, les organismes de coopération internationale, c'est des organismes canadiens, mais ils ont un partenaire terrain malien pour mettre en place le projet. Fait que ça pourrait être un genre d'intervenant pertinent. Ça pourrait être les bénéficiaires du projet. Fait que, mettons une femme qui a fait un atelier qui a été organisé par le gouvernement du Canada, j'aimerais ça y parler. Fait que, c'est super varié. Là.
Si jamais tu as besoin de contact, je peux t'en envoyer. On a plein de listes défilantes de bénéficiaires. Trouver des outils, puis qui
sont... Je dirais pas non.
D'ailleurs, cette semaine, comment ça se passe au stage? Qu'est-ce que tu trouves de pertinent?
Ben, de un, je trouve que la chose la plus pertinente de ces stages-là... Ben, il y a eu plusieurs trucs. Je pense qu'on a une grande idéalisation des stages quand on est assis dans nos salles de classe à l'université. Puis quand tu arrives sur le terrain, c'est pas tout à fait ce à quoi tu t'attendais. Je trouve ça intéressant de voir ça à ma dernière année parce que je suis dans le profil de coopération internationale, de voir que en vrai, c'est comme Gabo disait, on a des partenaires qui sont sur le terrain. Puis la première chose qui m'a choquée en arrivant au CSI, c'est de voir que l'idée utopique qu'on a du terrain, ben elle nous est pas dédiée à nous. C'est vraiment pas notre vocation à nous. Puis si on la voulait plus que tout, je pense qu'on serait un peu désaligné de notre vocation, justement. Fait que ça fait en sorte que, par exemple, au CSI, notre partenaire qui s'appelle Kilabo, qui est un organisme qui est malien, ben eux, ils ont tous les outils pour mettre en branle leur projet sur le terrain. Nous, on est partenaire avec eux pour, de un, alléger tout ce qui est au niveau administratif. Fait que toutes les ententes avec Affaires mondiales Canada, par exemple, qui sont très, très rigides dans leur cadre. C'est le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui veut cocher des cases aussi sur plein de trucs. Fait que justement, comme tu disais, tout le paramètre d'équité de genre, mais il y a de plus en plus de paramètres qui arrivent, là. Le droit de la personne, l'environnement, tous ces paramètres-là qui doivent être considérés. Fait que c'est ça. C'est beaucoup de rapports, c'est beaucoup d'analyses de qu'est-ce qui a déjà été fait. C'est la revue de la littérature pour ne pas refaire les erreurs d'avant. Fait que je trouve ça intéressant. Puis en même temps, c'est ça, je pense qu'il y a un questionnement à y avoir sur quel est notre rôle à nous, puis comment on ne tombe pas dans pardon mon anglais, mais le white savior, puis l'espèce de syndrome de l'imposteur, de vouloir donc bien à tout prix aller sur le terrain parce que c'est valorisant, parce que c'est challengeant, parce que ça bouge. Même
beaucoup de personnes veulent aller en coopération au début.
Exactement, parce qu'on a la fougue. On a la fougue de vouloir, tout changer, mais en même temps, on se rend compte, peut-être aussi ça vient avec la maturité professionnelle, qu'au final, ce qui les aide le plus, c'est que nous, on soit outillés, puis qu'on ait aussi l'encadrement académique pour remplir cette paperasse-là qui est souvent les rapports de 60 pages puis des trucs comme ça pour...
Vraiment exigeante.
Exactement. Puis alors que pendant ce temps-là, eux peuvent focaliser toute leur énergie sur le terrain, à monter des ateliers, à accompagner leurs bénéficiaires, à faire en sorte que les cohortes soient résilientes plus tard puis qu'ils soient aussi... qui puissent faire de la propagande douce envers leur communauté. De la propagande positive, du marketing pour pouvoir amener d'autres bénéficiaires après. Oui. Fait que c'est cool.
Puis, tu sais, en général, tout le temps, en fait, ces partenaires-là terrain ont une tellement meilleure compréhension du terrain que si une organisme canadienne débarque pour, aller faire du white saviorism à l'autre bout du monde. Puis, tu sais, ça, je pense que c'est quelque chose qui se répand de plus en plus en aide au développement puis en coopération internationale, le fait de faire affaire avec des partenaires terrain. Puis, dans ma tête, ça, c'est capital parce que sinon, tu passes à côté de la traque. Absolument. Complètement. Sinon, le reste, là, c'est tu sais, faudrait que je théorise ça pour mon mémoire, je pense que ça n'existe pas, mais l'équivalent du greenwashing, mais genre de coopération washing, tu sais, en
même... Ça s'appelle le volontourisme, quelque chose de même.
En tout cas, c'est quand tu veux faire, dans le fond, du volontariat, mais que tu le mélanges à du tourisme.
C'est ça, exact. Fait que tu sais, les projets de deux semaines...
Aide humanitaire.
Exact, ouais, les affaires de deux semaines où tu t'en vas nettoyer des trucs dans des écoles.
Ouais. Mais je parle, tu sais, mettons, parce qu'un organisme qui fait ça, mettons. Ouais. Tu sais, pas l'individu, là.
Quand il y a un organisme du financement pour comme, faire du volontourisme, entre guillemets.
I guess, là. Mais... Fait que ça, pour dire que je pense qu'il y a une réflexion profonde à avoir sur... en soi, l'activité d'aide au développement, est-ce que c'est quelque chose qui, au final, a un net positif ou, genre, on n'aide pas grand-chose ou, genre, on amène des normes occidentales qui, finalement, s'appliquent pas bien pantoute au terrain? Est-ce qu'il y a des façons de faire ça de façon plus efficace, plus adaptée au terrain? Puis je pense que d'y aller, justement, avec les gens localement, c'est une piste de solution qui est en croissance. Puis, genre, moi, je pousserais ça plus loin. Je suis comme... On y va, là.
Oui, absolument. Oui, puis en fait, moi, c'est parce que j'avais juste pas eu cette vision-là du tout. Moi, dans ma tête, c'était beaucoup de collaboration, mais je pensais qu'il y avait une partie de notre expertise qu'on leur apportait sur le terrain, mais ça, c'était un gros cliché, encore une fois, de White Savior qui ont déconstruit semaine 1, tu sais, puis c'est pas malin comme cliché, c'est juste qu'on est comme un peu éduqué comme ça, puis on se dit que nos façons de faire à nous peuvent être donc bien idéalistes. Ouais, puis ils sont idéalistes, puis ils pourraient donc... Mais en même temps, c'est que les réalités, c'est souvent, ils n'ont pas les ressources nécessairement pour avoir le genre d'encadrement que nous, on a. Puis au final, c'est pas vraiment ça qu'ils veulent non plus. T'sais, ils veulent juste que ça aille rondement, que ça soit fluide, puis il y a d'autres moyens d'y aller. Puis souvent, c'est ça, ça passe par eux à tout prix. Là.
Tantôt, tu me disais... En fait, hier, tu me disais que tu étais surprise de voir à quel point l'équipe du Mali... De
Kilabo.
Kilabo. Ouais. Mais t'es vraiment super génial, en fait. Là.
Sharp. Encore une fois, pardon mon anglais, mais c'était sharp.
Mais c'est quoi leur compétence? Comment t'es trouvé? T'sais, concrètement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ben, la façon que nous, ça fonctionnait, dans le fond, c'est Kilabo, les quatre hommes qui sont venus nous visiter, il y a le directeur du programme. Puis, il y a les trois, je pense qu'ils sont comme chefs de programme. Fait que le projet est divisé dans les trois régions, puis eux autres sont chefs de chacune de leurs régions. Fait qu'eux autres ils coordonnent tous les ateliers qui se font dans leur région, puis c'est comme ça va vraiment par branche. Sauf que plus tu descends dans la hiérarchie, moins que ces gens-là sont éduqués ou alphabétisés. Fait que ça fait en sorte qu'eux, ils ont des jobs, mais comme c'est vraiment plus concret sur le terrain. Puis c'est ça, on a eu beaucoup de rencontres. Eux sont allés rencontrer Affaires mondiales Canada. Ils n'avaient pas le choix dans le cadre de leur mandat. Il faut qu'ils viennent les rencontrer une fois aux deux ans. On est allé rencontrer aussi le ministère de l'Environnement et de la Francophonie à Québec. Fait qu'il y avait comme plein de petits pit stops qu'il fallait qu'ils fassent pendant leur visite. Puis il y a eu aussi beaucoup de rencontres avec nos partenaires qui sont en Estrie, d'entre autres pour un nouveau projet qu'on fait en agroforesterie justement. Puis c'est ça, ils sont arrivés avec, de un, très très préparés, puis de deux, c'était vraiment un bel échange au sens où eux font des trucs qui nous sont utiles aussi. Puis ils ont rencontré, je pense notamment à notre partenaire qui s'appelle Culture Innove, qui est à Saint-Camille, qui est comme une pépinière d'arbres à fruits. Puis c'est très, c'est des cultures émergentes, fait qu'ils veulent essayer d'être, en lien plus avec la nature. Puis eux parlaient de mentorat, fait que lui est dans l'industrie depuis des années. Puis il parlait de comment être mentorat et être un mentoré, ça peut être bénéfique. Puis les gars aussi parlaient de comment eux, ils ont introduit des mentors dans leur programme d'aide justement à l'entrepreneuriat féminin. Puis comment eux, ça fait en sorte que ces personnes-là n'ont pas nécessairement le niveau d'éducation souhaité par rapport aux mentors que nous, on voudrait au Québec. Mais eux font tellement un grand... Ils ont tellement un grand impact parce qu'ils font juste mettre en lumière ce qu'ils ont fait avant qui n'a pas fonctionné. Pour justement juste, t'sais, en fait, c'est juste ça le but, là, de dire, regarde, moi, j'ai fait cette erreur-là, puis peut-être, toi, si tu te l'évites, ben, j'ai pas besoin d'avoir un bac pour t'expliquer que, comme, moi, ma business, elle a planté à cause de ça, puis peut-être que si toi, tu le fais de façon différente. Fait, en tout cas, c'était vraiment beau à voir.
Un
pis,
bel échange.
Ouais, vraiment. Exactement. Puis eux se fient beaucoup, tu sais, ils sont très communautaires comme peuple, fait que justement, ils se fient beaucoup à leurs voisins, ils regardent beaucoup sur les autres pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, puis ils se fient beaucoup sur l'autre pour se faire aider, fait que c'était vraiment un bel échange.
Je vais changer de sujet complètement. Vas-y. En ramenant, tantôt on parlait du fait qu'il y a plusieurs communautés au Mali, puis là on disait aussi que il y a plein de facteurs qui ont changé les données, puis c'est pour ça que tu fais notamment des entrevues un à un. Et je me demandais, c'est quoi que ça a impacté le retrait de la France là, récemment?
Là, on est dans l'intuition, dans le sens que j'ai pas fini mon mémoire. Mais selon les témoignages que j'ai récoltés jusqu'à maintenant, j'ai vraiment l'impression que le retrait de la France... parce que là, dans le fond, il y a eu le retrait militaire, mais il y a aussi eu le retrait progressif de l'aide au développement de la France, qui était un partenaire majeur en développement au Mali, là, qui était comme un des trois plus gros bailleurs de fonds. Fait que ça a laissé un trou monumental dans le budget pour les organismes locaux. Ce que ça a fait, ben, premièrement, ben, ça a créé ben des problèmes parce qu'il y a des gens qui dépendaient de cette aide financière-là pour faire leurs activités. Mais ce que ça a créé pour le Canada, ça a créé un vide à combler. Puis ça a créé aussi un comparable. Parce que, tu sais, dans la vie, tu dis, ah, j'ai un ange d'un bord, puis j'ai un démon de l'autre. Ben là, il voit la France comme le petit démon. Fait que là, le Canada est rendu le petit ange parce qu'eux, ils n'ont pas de passé colonialiste avec le Mali. C'est pas l'ancien peuple colonisateur, tu comprends? C'est comme un faire table rase dans le sens que comme il n'y a pas de passé colonial avec le Canada comparativement au Mali, comparativement à la France avec le Mali, il n'y a pas cette espèce de relation historique-là qui a des racines vraiment profondes de tension. Le Canada est tout en vue comme un bon joueur, de ce que j'ai compris à date, des témoignages que j'ai à date. Je tiens à dire, peut-être que ça va changer. Mais à date, les gens adorent le Canada parce que le Canada n'est pas la France. Est-ce que les gens adoreraient le Canada si la France n'avait pas été aussi mesquine, je ne sais pas. Parce que là, j'ai l'impression que c'est comme le bon joueur de facto parce qu'on se plaît à détester la France. Ouais. Fait que c'est comme le comparable.
Est-ce que ça n'a pas toujours été ça, le profil du Canada? Il ne veut pas trop brasser les cartes, on reste diplomate avec tout le monde, on veut garder une belle...
C'est pas mal la tradition canadienne à l'échelle mondiale, puis peu importe les secteurs, là, que ce soit en maintien de la paix, que ce soit en aide au développement, que ce soit même au sein de l'OTAN, le Canada, ce sera jamais lui qui va dire on part en guerre ou on fait une révolution. Là,
c'est pacificateur.
C'est ça.
Pour dire justement au début, justement, le Canada a toujours eu ce bon rôle-là. Puis le fait qu'il n'y ait plus la France, peut-être qu'au contraire, ça pourrait enlever le comparatif entre la France puis le Canada, puis qu'éventuellement, on pourrait donner une mauvaise image au Canada s'il se plante.
Je pense pas que ça va se rendre là.
On espère.
Parce que, d'une part, le Canada a déjà commencé à diminuer beaucoup ses investissements au Mali. Ça n'a pas été annoncé explicitement, mais moi, j'ai le fort sentiment que le Canada va progressivement se retirer complètement du Mali.
Ce serait quoi les raisons principales?
Ben là, en ce moment, premièrement, ils sont en train de développer une programmation Sahel, donc une programmation régionale avec des projets qui vont être régionaux, qui vont toucher à tous les pays du Sahel et pas seulement le Mali. Puis deuxièmement, je pense qu'en jouant ça comme ça, ça fait baisser l'incertitude qui est liée à l'insécurité. C'est-à-dire que s'il y a un pays qui part en coup d'État, ben tu peux quand même maintenir ton projet dans les autres pays. Tandis que si le Mali part en coup d'État puis que tu es juste investi au Mali, mais là, tu viens de mettre tout ton argent dans les poubelles. Je pense que ça vient... modérer le risque pour le Canada. Puis c'est aussi le fait que, je veux dire, la France, c'est un très bon allié du Canada. Si la France entretient des mauvaises relations avec le Mali puis qu'ils se font franchement insulter par le Mali, est-ce que tu veux encourager ça puis rester là? Après ça, je dis pas que le Mali a pas de raison d'insulter la France, mais ça reste que c'est un jeu de géopolitique aussi, parce qu'avant tout, le Canada, s'il est au Mali, c'est parce qu'il y a des intérêts au Mali. Si les intérêts sont plus là, est-ce qu'ils vont rester? Je pense pas.
C'est quoi exactement ces intérêts?
Honnêtement, je ne suis pas spécialiste là-dedans. Je sais que les pays du Sahel, en général, c'est des pays qui sont très appréciés parce que c'est l'Afrique francophone. Pour le Québec, il y a quand même des liens assez directs avec l'Afrique francophone. En termes de ressources naturelles, l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi une région qui est très connue. La France, par exemple, avec le Niger, puis le Burkina Faso, c'est des régions où ils vont chercher énormément d'uranium. Le Canada aussi est producteur d'uranium. Fait qu'en tout cas, honnêtement, je voudrais pas me risquer dans une analyse de tout ça parce que je ne suis pas une experte dans les intérêts de qu'est-ce qui a motivé l'implication du Canada au Mali à la base. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, de comment les gens m'en parlent, que l'intérêt est de moins en moins là.
OK.
Mais ouais, il est très présent justement parce que c'est une nation francophone. Là, mm-hmm. Tu sais, nous, on est en lien directement avec le ministère de la Francophonie parce que c'était des ententes bilatérales avec, avec plusieurs, plusieurs États qui sont francophones.
Pour le Québec, je comprendrais tout à fait. Exact. Mais quand le financement vient d'Affaires mondiales Canada, c'est là que j'ai un peu de difficulté à comprendre d'où vient l'intérêt particulièrement parce que moi, j'ai de la misère à croire qu'un pays fait ça juste par pure bonté pour essayer de rendre le monde plus juste.
Ben, il y a aussi l'intérêt, tu sais, de, on va se dire, là, de l'apparence. Le pays qui reçoit le plus d'argent du Canada en ce moment en aide au développement, c'est l'Afghanistan. Ouais, la condition des femmes, ben, en tout cas, je sais pas si ça a changé, là, mais c'était ça. En tout cas, j'ai le goût d'aller fact-check, là,
non, c'est juste, je m'attendais pas à ça, mais. Ouais.
Mais en même temps, c'est vrai, elle a bien dit ça pendant longtemps.
Oui, puis, tu sais, mais là, on parle vraiment en aide au développement, là. Je parle pas, tu sais, parce qu'il y a des investissements qui sont en réponse humanitaire, là. Fait que, par exemple, en Palestine, en ce moment, il y a des fonds en aide humanitaire qui ont été débloqués. Ouais, il y a des ententes commerciales, que ça, c'est un autre poche budgétaire complètement. Mais attends, en aide internationale, tout pays confondu, pays, on va aller voir, je suis sur la page. Ça load, ce sera pas long. Ah non, l'Éthiopie a devancé l'Afghanistan de 5 millions, mais c'était l'Afghanistan.
Okay, donc, on est combien en aide en développement international, là, pour le fun, tu le sais-tu?
Aide internationale...
Total, là, tu sais, qu'on envoie tout pays confondu.
Ben là, devant les yeux en ce moment, j'ai 8 000 millions. Ça n'a pas d'allure, ça veut dire 8 milliards.
Ouais. 8 000 millions.
Mais non, mais.
Non, mais c'est.
8 milliards. Mais je trouve que c'est vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, je suis sur le site d'Affaires mondiales Canada en ce moment. Puis.
Okay, fait que ça s'apparenterait autour de.
Mais tu sais, pour te donner une idée, mais ça arrête l'allure, dans le fond. Parce qu'au Mali, en ce moment, cette année, ils ont mis 110 millions à peu près. Fait que. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça arrête l'allure parce que ça monte vite quand même les factures. Là. Fait que.
Oui. Ouais. Pourtant, pas très lucratif quand même, mais nécessaire.
Exactement.
Je veux dire, c'est pas...
C'est pas la business où tu sors exactement. Tu veux plus win-win, mais...
Ah. Tu veux faire de l'argent, tu veux pas en coopération, mais c'est vraiment par bonté que tu fais ça.
Mais tu vois, c'est ça. L'Afghanistan, depuis 2017, c'est-à-dire depuis qu'ils ont mis la politique d'aide internationale féministe au Canada, c'est le pays qui a reçu le plus d'argent, puis on parle d'un milliard juste pour l'Afghanistan.
C'est beaucoup.
Ouais. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit, le Mali, on en entendait beaucoup parler avant, parce que c'était une région géopolitiquement très chaude. Est-ce qu'en ce moment, c'est autant glamour? Est-ce que tu as encore l'espèce d'engouement médiatique d'aller aider là-bas en ce moment? Probablement drôlement moins que quand tu es en Afghanistan, les jeunes femmes qui n'ont pas accès à l'éducation. Fait que je pense qu'il y a un côté white savior, justement, d'essayer de faire une belle apparence publique pour le Canada. Mais tu sais, encore là, ça dépend c'est quoi qu'ils veulent mettre comme priorité en aide au développement. Parce que, tu sais, là, il y a eu un temps qu'il y avait un plan d'action qui était vraiment axé sur l'accès à tout ce qui était la sécurité alimentaire. Là, après ça, ils ont eu un plan d'action qui était plus axé sur la santé sexuelle et reproductive. Fait que ça dépend tout le temps de quoi leur intérêt premier. Puis ça, souvent, ça fluctue selon c'est qui le ministre. Fait que je te dirais, les pays qui vont recevoir les grosses enveloppes, ça dépend aussi selon c'est qui le ministre.
Tantôt, tu as dit que, dans le fond, ça allait changer pour s'orienter plus autour de la région de Sahel en général, plutôt que juste sur le Mali.
Ouais.
Mais ça va avoir quoi comme impact, le fait que ce soit moins précisé, moins centré sur une région en particulier? Est-ce que les besoins vont être moins bien comblés?
J'ai aucune idée, honnêtement. Ça va dépendre de la mise en application, comment ils vont faire ça. Parce que, oui, il y a des enjeux qui sont régionaux. Fait que, oui, il y a des enjeux que je pense que ça vaut la peine de développer une stratégie régionale, mais il y a des affaires sur lesquelles je trouve que ça fait pas de bon sens. Puis juste parce que tu regardes l'identité de comment les gens s'identifient, tu parles à quelqu'un du Tchad, il va te dire « moi, je suis arabe ». Tu parles à quelqu'un du Mali, il va te dire « moi, je suis africain ». Fait que, tu sais, les enjeux locaux sont pas les mêmes. Fait que, tu sais, ça va être à considérer. Mais, tu sais, en même temps, s'ils prennent juste de front les enjeux qui sont plus régionaux, ça, je pense que ça peut se faire. Tu sais, par exemple, s'ils ont des plans en réduction de l'extrémisme violent. L'extrémisme violent, c'est un problème qui touche tout le Sahel en ce moment. Fait que, tu sais, ça pourrait être un bon projet. Mais j'ai aucune idée c'est quoi leur focus en ce moment. C'est vraiment nouveau. Et puis, je dirais... Comme le 6 mois, ils commençaient, je pense qu'ils lançaient leur premier projet Sahel. Fait que.
OK, il y en a un de lancé, là.
Il y en a un de lancé, mais je me rappelle pas, il est sur quoi, honnêtement.
Ça veut dire que ça va migrer éventuellement pour ne plus être focalisé juste sur un pays comme le Mali, mais toute la région complète. Il n'y en aura plus du tout, là.
Ça veut pas dire qu'il n'y en aura plus du tout. Ça se peut qu'il y en ait encore, des projets qui sont plus locaux parce que, tu sais, il va toujours avoir des enjeux qui sont plus locaux, là. C'est sûr. En ce moment, je pense que c'est dans l'intérêt du Canada d'aller vers une solution plus régionale, parce que peut-être pour les apparences, peut-être parce qu'ils veulent se positionner en leader dans la région, parce que c'est une région qui est très instable. Fait que l'aspect médiateur peut rentrer aussi en compte. Fait ouais. Ouais.
Je pense que ça pourrait avoir un impact sur le CSI, ça, en envie.
Ça pourrait, parce que, mais en même temps, nous, on n'est pas du tout dans la région du Sahel, fait que je sais pas si ça...
Ben en fait, qu'il y a un switch par rapport à une aide qui est plus régionale, qu'une aide qui est plus centrée sur le Mali, disons, parce que ça va quand même très bien, le projet, en ce moment, avec le CSI.
Oui, absolument, mais tu sais, dans tous les projets de coopération internationale, de plus en plus, les enveloppes sont... Ils diminuent pas nécessairement, mais ils sont de plus en plus divisés en plein de projets, fait que... De n'importe quel moment, on peut se faire couper nos enveloppes puis revirer. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à chaque fois, c'est un peu un pile ou face, là. Tu proposes un projet, puis tu sais pas trop s'il va passer. Puis des fois, comme on parlait tout à l'heure, il y a des fois où on se fait couper des projets assez rapidement juste par question de vouloir cocher des cases par rapport à tel truc. On a perdu un projet, entre autres, parce qu'il voulait donner les fonds dans un organisme qui embauche plus de personnes avec des situations de handicap, par exemple. Mmh. Fait que ça
fait même pas les critères de comme ton projet consiste en quoi, c'est ton organisme.
Exact. Puis c'est un peu dommage parce que c'est beaucoup de ressources puis de travail qui est mis sur des présentations de projets qui sont coupées assez rapidement, mais en même temps, comme je dis, de plus en plus les demandes sont fortes puis les enveloppes grossissent pas nécessairement proportionnellement à la hausse des demandes. Fait que ça fait en sorte qu'ils doivent être coupés, puis c'est ça. Les gens qui travaillent à Affaires mondiales sont formés pour lire des présentations de projets en grosse diagonale, puis couper ce qu'ils ont... les trier assez rapidement. Fait que ça pourrait avoir un impact, absolument. C'est sûr que oui.
Est-ce qu'on sait-tu que c'est une critique un peu de... Parce que là, je t'en ai parlé, je me dis, est-ce que c'est une critique qui revient souvent avec les projets d'aide internationale du Canada, pas juste féministe, mais les projets d'aide internationale en général? Ouais. Le fait qu'il y ait autant de critères, ça devient un peu compliqué, non?
Oui, oui. Je sais pas pour les autres pays, là, puis je suis très, très peu familière avec Affaires mondiales Canada. Je suis en travail avec eux, mais je viens juste d'arriver. Sauf que c'est ça, c'est très rigide, c'est très bureaucratique, puis ils en reçoivent beaucoup, 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 beaucoup. Fait que souvent, de plus en plus aussi, les organismes, les petits organismes s'allient entre eux. Je pense notamment au CSI, il y en a un au Saguenay aussi. On a fait une déposition de projet avec eux. Puis qu'on s'allie avec un autre ONG qui est plus régional pour essayer de que tout le monde puisse en bénéficier au bout de la ligne. Fait que c'est la force du nom, mais en même temps, c'est ce projet-là justement qu'on s'est fait couper malheureusement. Fait que c'est eux autres qui ont monté des ressources pendant 6 mois pour monter un projet dans les règles de l'art, puis il était pas mal sûr de l'avoir, puis finalement, on le coupe, puis là, tu as vu qu'est-ce que ça fait à l'interne. Ouais, exact. Ouais. On perd des gens, on a dû mettre quelqu'un à pied, on perd des postes, tout le volet de stage à l'international.
C'est tellement d'efforts aussi qui est mis à poubelle, t'espères tellement pendant longtemps que ça va fonctionner, puis tu t'accroches à ce financement-là, finalement, tu l'as pas.
C'est ça. Mais ça, c'est le jeu de travailler avec les bailleurs de fonds qui sont principalement gouvernementaux, c'est malheureusement, parce que c'est ça, eux, ils ont des cadres à respecter, puis on est super reconnaissants parce que d'un côté, c'est eux qui nous amènent les plus grosses enveloppes, puis de l'autre côté, ben, c'est sûr que ça vient avec beaucoup, beaucoup de responsabilités, puis un encadrement qui est très, très dirigé. On peut rien faire pour ça, malheureusement, tu sais. Ce que ça veut dire qu'on s'allie avec d'autres, mais...
Mais les consortiums sont vraiment de plus en plus fréquents, j'ai l'impression, en aide au développement, parce que souvent, tu sais, un organisme peut avoir une expertise dans un certain domaine, mais l'autre va en avoir une autre complémentaire. Exact. Fait que, tu sais, je pense qu'en termes de qualité de projet, ça aide à rehausser le niveau.
Oui.
Est-ce que ça rend le choix plus facile? Je pense pas, par contre. Fait que, ouais.
Ouais, puis il y a aussi, tu sais, à l'interne, on n'est pas obligé de rentrer dans les profondeurs, mais je pense qu'il y a une guerre entre les gros OCI puis les plus petits, tu sais. Justement, hier, on était dans une assemblée générale, puis c'était intéressant aussi comme échange. On écoutait les gens parler, puis on a des membres qui viennent de plein d'OCI. Mm-hmm. Puis il y avait un monsieur qui était là du CECI qui disait que eux, leur défi au CECI, c'est la mobilisation des régions. Puis l'autre petit OCI qui est en région, lui, son défi, c'est pas la mobilisation, le défi, c'est le financement. Fait que le CECI, eux, ils ont plein de financements, mais pas de mobilisation. Puis plus régionalement, ben eux, ils ont plein de mobilisation, mais aucun financement. Est-ce que ça serait, tu sais, eux se sont échangés des cartes à la fin de la soirée, puis je me disais, ben oui, assoyez-vous ensemble, puis trouvons un compromis du mi-chemin. Mais c'est aussi sur papier, c'est très utopique, mais après ça, où est-ce qu'on se tient dans les compromis? Parce que les valeurs sont-tu 100% les mêmes? Est-ce qu'on est capable de s'allier pour ça? À voir.
Mmh. Ouais. Mais en terminant, est-ce qu'on pourrait parler un peu de ton changement de direction, s'il y en a un? Puis sinon, de ta poursuite de direction pour ton mémoire. C'est quoi tes conclusions que tu as jusqu'à présent?
Ben là, j'ai pas terminé ma collecte de données encore. Je suis à peu près à, je dirais, 70% de ma collecte de fait.
OK, c'est quand même bon.
Oui, ben en fait, 70% de mon minimum que je me suis fixé. Fait que ça peut être plus si jamais je reçois plus de contacts. Parce que ma liste de contacts préliminaires a été dilapidée assez rapidement. Là. Ouais, ça a comme été long avant que j'aie mes premières entrevues, mais quand j'ai commencé à en avoir, là, ça roulait bien. Là, c'était genre une par semaine. Là, j'en ai une la semaine prochaine, puis après ça, j'attends de voir. Fait que là, s'il y a des gens qui ont des contacts, je suis comme... Mais, fait que ça a été un enjeu. Sinon, sur le contenu qu'on m'a dit, justement, l'aspect de à quel point le Canada paraît bien parce que la France est aussi démonisée, ça, c'est quelque chose que j'avais genre zéro anticipé quand j'ai fait mon cadre théorique. Fait que nécessairement, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'inclue dans mon analyse, qu'en ce moment, tu sais, faut que je trouve une approche, quelque chose, un modèle théorique des concepts pour essayer de mobiliser ça. Moi, je passais vraiment dans un cadre d'analyse qui était très normatif. Fait que c'est quoi une norme? Comment tu fais pour changer les normes? C'est quoi les solutions, les situations potentielles quand deux normes se rencontrent? Fait que tu sais, j'étais vraiment dans une analyse normative. Plus ça va, plus je suis comme, ah non, je veux pas faire ça. Genre, moi, je veux faire une analyse, genre, post-colonialiste, puis je veux voir c'est quoi les impacts, genre, colonialistes qui découlent de l'aide au développement. Fait que Ça change. Je te dirais plus que j'ai des rencontres, plus j'ai des données. Mais ça va avec mon schéma de recherche, c'est-à-dire que je suis en inductif et non pas en déductif. Fait que ça veut dire moi, je suis pas partie d'une hypothèse. Là. Moi, je suis partie genre en mode full exploratoire de comme je vais voir qu'est-ce que le monde me dit. Fait que ça vient avec le fait de faire des allers-retours entre tes données et ton cadre théorique pour que ça fasse fitter ça comme un beau petit casse-tête. Là, parce que en ce moment, c'est un peu éclectique. fait que ça va venir avec ces défis-là. Mon plus gros défi, je te dirais, ça serait de pas tomber en élection avant que je remette mon mémoire, parce que si Poiliev rentre, j'ai peur que la politique d'aide internationale féministe sacque le camp.
C'est ça qui arrive aussi. Hein, ça,
ouais, fait que...
De leur côté, c'est instable, mais nous aussi, on peut être instable de l'autre côté. Hein.
C'est ça. Fait que...
Parce que les distinctions, excuse-moi, entre la politique un peu, puis le gouvernement un peu, puis ce qui est...
Ah, ben...
Tu vas pas là?
Ben, en fait... La politique d'aide internationale féministe a été élaborée sous Trudeau.
Ouais.
C'est
comparatif avec les années sous Harper et tu...
Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, les plus gros gains, comme je disais, se sont faits avant 2017, donc pendant le gouvernement Harper, ce qui est un peu weird.
Ouais.
Est-ce que le Canada vraiment joue un rôle là-dedans? Je sais pas. Il y en a qui semblaient me dire que oui, mais tu sais, par exemple, il y a une loi qui force la parité nominative et élective des postes au Mali. Fait qu'il y a au minimum, genre que tu sois dans une zone paritaire. Dans les faits, c'est pas complètement vrai, là. Genre, ils sont pas paritaires, mais la proportion de femmes a quand même augmenté depuis qu'ils ont passé cette loi-là, puis ça, c'était avant 2017. Ils ont fait aussi le plan national genre au Mali, ça, c'était avant 2017. Le Canada a joué un rôle dans l'élaboration puis l'évaluation de cette politique-là. Fait que, tu sais, toutes ces affaires se sont faites avant 2017, dans le temps d'Harper. Fait que là, tu te dis, si on retombe avec un gouvernement conservateur, est-ce que nécessairement tout ce qui est féministe va sacrer le camp? Moi, je pense que la politique d'aide internationale féministe telle qu'elle est actuellement va cesser d'exister si c'est Poiliev qui rentre. Mais je pense pas que dans la pratique, ça va changer nécessairement beaucoup de choses. Parce que je prends l'exemple de la Suède. La Suède avait une politique étrangère féministe jusqu'à temps qu'un gouvernement de droite prenne le pouvoir. Le gouvernement a mis fin à la politique étrangère féministe en disant que c'était une histoire de marketing plus qu'une histoire concrète. Puis comme de fait, je ne sais pas à quel point ça a changé quelque chose dans l'action que la Suède fait à l'international depuis. T'sais, est-ce que c'est vraiment un labeling ou ça a des changements concrets? Je ne sais pas. Fait que même chose parce que en tout cas, dans l'aide internationale canadienne, j'ai pas l'impression que la date fatidique de 2017 a changé tant de choses que ça, à part dans le côté administratif de l'aide au développement.
Parce que ça, c'était déjà là avant, comme tu disais. C'était parti en 2017, puis c'est juste par après. C'était avant 2017 que c'était ancré dans les valeurs, puis ça a été comme confirmé par après. Fait que ça serait à voir,
Oui, c'est plus que j'ai pas envie de comme réécrire comme ma problématique. Puis...
Non, non. Tu finis ton mémoire avant la prochaine année. Donc,
ouais.
Élections hâtives. C'est pour Noël, tiens.
Course contre la honte.
Ouais, non, ça va être ça.
Là, tu continues à avoir des entrevues dans les prochaines semaines.
Ouais, j'en ai une la semaine prochaine. Puis après ça, je vais relancer mes contacts que j'ai comme pas de réponse pour essayer d'en booker d'autres d'ici Noël.
C'est-tu le professeur Ben-Sherif qui t'aide dans tes contacts?
Non, en fait, lui, il dirige mon mémoire, mais il m'a référé à un seul organisme. Le reste, c'est effet boule de neige parce que j'ai fait un stage à Faire Monter à Canada à l'hiver dernier.
Ah, oh, c'est vrai!
Ce qui m'a donné beaucoup de contacts à l'interne. Fait que j'ai utilisé mon réseau de contacts pour aller trouver des gens qui travaillaient ou qui travaillent encore au ministère. Puis voilà.
Puis mettons rapidement la bureaucratie de l'Affaires mondiales Canada. T'as trouvé ça comment en stage?
Je te dirais, moi, j'ai adoré mon stage. J'ai adoré la deuxième partie de mon stage.
C'était quoi?
Parce que la première partie de mon stage, c'était attendre après mes logins, attendre après mon ordi, attendre après... c'est tout pour être fonctionnel et être capable de bien travailler. Puis me retrouver dans la structure d'Affaires mondiales Canada. Parce que là, tu parles d'un jargon, tu parles de secteur, de milieu d'activité. Tu sais, c'est une structure gigantesque. Fait que tu sais, la première moitié de mon stage, honnêtement, j'étais comme... J'espère que vous allez me réengager après parce que comme c'est un peu une perte d'argent sinon. Là, le temps que ça m'a pris avant de devenir fonctionnelle puis j'en faire de la bonne job, là, de quoi tu sais que j'étais fière puis que j'étais comme « voilà, j'ai fait ça », ça a quand même pris un 2 mois. Là. Fait comme je te dirais, il y a la moitié de mon stage que j'ai été vraiment efficace parce que là, j'avais les bons outils puis là, j'avais le bon coaching puis là, ça débloquait.
Ouais.
Mais la première portion de mon stage, c'était genre « j'étais... »
C'est ça,
j'étais un chevreuil sur l'autoroute, là.
Ah oui, c'est une grosse machine, puis elle tourne vite, là.
Ouais.
C'est étourdissant au début, là.
Ouais.
C'est normal, tu deviens fonctionnaire.
Ton stage, c'était avec quel... C'est dans quel cadre?
C'était un stage de même, là.
Que t'avais trouvé par toi-même?
Ouais.
Mais c'est dans quel secteur d'Affaires mondiales Canada?
C'est WWL, ça s'appelle la branche, là. Mais en gros, c'est la branche Sahel, fait que Mali, Niger, Côte d'Ivoire. Puis j'en oublie, là. Il y a Burkina Faso, me semble qu'il y en a là-dedans, puis le Tchad.
Ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui cherchent un futur stage, qui cherchent de quoi faire après le bac. Et nous, on va être plusieurs dans cette situation-là après. Donc, je te donne.
C'est des étudiants de la maîtrise qui prenaient.
Oui. Puis en ce moment, honnêtement, en tout cas, je leur ai réécrit pour savoir s'il y avait de la place pour moi cet hiver. Puis ils m'ont répondu qu'il y avait beaucoup de coupures budgétaires.
Oh
puis,
et oui.
Puis que même les casuals perdaient leur poste. Fait que, fait qu'ils n'ont pas de place pour moi cet hiver. Fait que.
C'est trop, là.
Ça touche pas juste TVE.
Radio-Can s'en vient bientôt, peut-être aussi, hein.
Adieu mon futur emploi. Mais.
Tous nos futurs emplois.
Mais. Bref, je pense que ça fait pas mal le tour de notre question. On a beaucoup abordé les enjeux de coopération internationale. On voit que c'est pas nécessairement un milieu qui est facile. C'est un milieu où est-ce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté en termes de quand vient le temps de faire des échanges interculturels. Puis pour toi, Gabgo, ton sujet de maîtrise est fort très pertinent, mais aussi beaucoup à voir. Fait que j'espère que tu vas nous tenir au courant sur l'éventualité de ça.
Oui, ça va me faire plaisir.
On va lire ça quand ça va être publié.
Un petit 100 pages.
Ah, facile. Lecture légère.
Une petite lecture de chevet.
C'est-tu quelqu'un m'a dit, un grand sage m'a dit, le meilleur mémoire, c'est celui qui l'est remis.
Ah, c'est vrai, c'est un fait.
J'ai bien hâte de voir la conclusion de ton mémoire, savoir si ça a vraiment quel impact que ça a, puis s'il y a une grosse différence.
J'ai hâte de voir aussi.
Mais là-dessus, merci beaucoup les filles d'avoir été avec moi aujourd'hui.
Merci pour l'invitation.
Bye bye.
Bye.